Je prie pour
Allez.
toi. Seigneur, merci pour cette étude, Seigneur, dans laquelle tu nous plonges au travers de l'évangile de Matthieu. Merci parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons grandement besoin d'approfondir sur qui est Jésus, Seigneur, qui est notre maître, qui est celui après lequel nous marchons à la suite. Et je te prie, Seigneur, que ce qui est partagé ce matin produise un bon fruit dans nos cœurs, dans nos familles, dans partout où l'on va être, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la résurrection et tu es celui qui souffle la vie dans nos vies. Bénis Manon ce matin et bénis-nous. Amen.
Donc on va continuer à parler de Jésus aujourd'hui dans les chapitres 4 et 5, comme ça a été annoncé, et vous avez dit déjà beaucoup de choses. Donc, je propose qu'on s'arrête là. En fait, non, ça marche pas. En fait, c'est un message qui va être aussi vraiment en continuité avec les messages de Pierre et Farid, les dimanches précédents. Donc, je vous encourage à les réécouter aussi. On sait que la Bible, c'est une révélation progressive, hein, du plan et de la pensée de Dieu. Et c'est aussi le cas de la révélation de ce Jésus. Hein. Il n'arrive pas de but en blanc comme un maître incontesté, mais il choisit de s'inscrire dans un parcours de vie au cours duquel il nous invite à le connaître, à le reconnaître. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées dans les chapitres 4 et 5, donc on va peut-être passer rapidement sur certaines, notamment sur celles qui pourront être revues plus tard dans l'Évangile. Nous, on va s'arrêter sur le jeûne et la tentation de Jésus dans le désert. Puis en partie 2, on va voir peut-être un peu rapidement, mais l'entrée puissante dans le ministère de Jésus, hein, avec ce Jésus qui appelle, qui rassemble les premières foules, hein, qui commence les premiers miracles. Et en partie 3, on va se pencher sur le très connu sermon sur la montagne, hein, avec les béatitudes et les « moi je vous dis » de Jésus qui clarifie son rapport à toute la loi de l'Ancien Testament. Donc on a quand même un petit programme, hein, j'espère que vous avez pris du café. Avant ça, j'aurais aimé qu'on s'arrête sur deux figures royales qu'on connaît à peu près tous, donc ça ne va pas être trop compliqué. J'en avais mis. Ouais, voilà. Louis XIV, hein, ce grand roi soleil, tellement magnifique. Hein. Bon, il paraît qu'il n'avait aucune sorte d'idée de ce que pouvait vivre son peuple. Hein. Et la deuxième figure, c'est une figure féminine, comme ça on peut tous s'y retrouver. C'est Élisabeth II, quand elle était un peu plus jeune, et elle était en tournée en Inde à ce moment-là, dans l'empire colonial britannique. Et il paraît que son intendant organisait ses trajets, hein, juste avant qu'elle arrive, il payait des figurants, et il installait des décors pour montrer l'opulence et puis combien le peuple était au bénéfice, hein, de qui elle était. Donc voilà l'exemple de deux souverains qui n'avaient aucune sorte d'idée de ce que pouvait vivre leur peuple et de ce qu'ils pouvaient ressentir. Hein. Nous, on va voir la figure de Jésus ce matin et comment il s'est vraiment abaissé. Vraiment, jusqu'à nous. C'est ce fameux passage de la kénose de Philippiens 2 que Farid a lu la semaine dernière, hein, le fait que Jésus s'est abaissé jusqu'à nous. On pourra le relire à la fin du message pour voir qu'on va être proche de Paul, nous aussi, hein, ce matin, dans ce message. Alors, le désert, la tentation de Jésus, hein, se mettre pleinement Dieu, mais aussi tellement homme. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert, pour qu'il y soit tenté par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Alors il est très peu dit, hein, sur ce jeûne. On ne sait pas si Jésus a passé son temps en prière ou à dormir. On ne sait pas s'il marchait ou s'il a rencontré des gens. Mais le passage, il est fort parce qu'il renvoie à beaucoup d'autres récits bibliques. Hein. On pense à la tentation, la chute d'Adam et Ève au jardin. On pense au jeûne de Moïse, 40 jours aussi, hein, sur le mont Sinaï, où il reçoit directement des mains de Dieu les tables de la loi. On pense au dragon de l'Apocalypse, qui poursuit la femme qui enfante jusque dans un désert. Et on pense bien sûr au peuple, hein, qui a eu à traverser un autre désert avec d'autres épreuves. Et tout ça éclaire, hein, sur la personne de Jésus parce qu'il est celui vers qui tendent les événements depuis le début. Hein. Et quand il arrive sur terre, il réécrit l'histoire en apparaissant comme l'Israël selon le cœur de Dieu, hein, l'homme de la promesse, celui qui résiste au diable et qui est en tout point conforme à ce que Dieu aime. En fait, plus que image de Dieu sur terre, vous savez, c'est la vocation qu'on avait reçue en Éden, il est lui-même Dieu sur terre. Et le fait que Dieu ait voulu se révéler aux hommes en homme est incroyable quand on y pense. On banalise trop ça, en fait. Il aurait pu faire ça différemment, mais il a choisi vraiment d'être homme. Et ça a été un point difficile à accepter à l'époque, que Dieu se fasse homme. Parce que l'homme, il échoue depuis le début. Il ne parvient jamais à être image de Dieu. Alors c'est Dieu lui-même qui vient expliquer aux hommes ce qu'est être un homme. Il se fait image d'homme. C'est incroyable quand même. Il vient expliquer ce qu'est l'homme, mais aussi ce qu'est Dieu, parce qu'on n'avait pas tout à fait saisi. Il vient expliquer ce qu'il fait, ce qu'est son royaume. En fait, la kénose, l'abaissement de Jésus sur terre, quand on y pense, c'est un scandale dans l'histoire de l'humanité. C'est un Big Bang. La chute en est un premier, la venue de Jésus en est un autre. Dieu, cet être fort, puissant, créateur, souverain sur toute chose, il vient s'abaisser jusqu'à nous. Il choisit vraiment un degré d'intimité et de communion à ce que nous sommes pour rendre à nouveau possible le projet de Dieu pour le monde. Dieu s'est fait homme. Et Jésus, il a vraiment ressenti chaque coup qu'il a pris sur terre. Il y a toujours quelque chose dans notre tête qui nous fait passer à côté de ça. On se dit non, pour Jésus, c'était facile parce qu'il était Dieu. Mais en fait, non, il était aussi réellement un homme, complètement. Il a été sujet à la fatigue, il a eu faim, il a eu soif, il a été physiquement faible, il a vu de près sa propre mort dans ce désert. Il a goûté à l'extrême faiblesse de l'humanité. Et on se doit d'accepter que Jésus a pu être faible. Parce qu'il a rétabli tellement de choses grâce à ça, grâce au fait qu'il a été un homme. Il n'a pas voulu sauver le monde en restant trop éloigné de ce que ça voulait dire appartenir au monde. Il n'est pas une figure royale déconnectée, comme on a pu le voir avec Louis et Élisabeth, qui n'ont pas pu supporter de partager la condition de leur peuple. Dieu, il s'est fait homme, pleinement. Et face à la difficulté des trois tentations, il n'a pas choisi les réponses simples de sa divinité, les miracles, la puissance. Il devait obéir à notre place et il devait le faire avec la force d'un homme. Et c'est aussi ce qui fait qu'il peut compatir. C'est Hébreux 4, verset 15 qui nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par notre faiblesse, nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans jamais commettre de péché. » Et ça a une conséquence, ça. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. On a parlé du trône du Dieu de grâce, on peut s'en approcher avec une pleine assurance. Parce que là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. La tentation de Jésus au désert, en fait, elle a une résonance éternelle devant le trône de Dieu. Il sait ce qu'est être un homme. Et pourtant, ce n'était pas son idée d'aller dans ce désert. Il y va poussé par l'Esprit. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus au désert. Il n'y est pas allé de lui-même, comme on verra plus tard qu'il n'est pas descendu lui-même sur terre, mais que c'est son Père qui l'a envoyé. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Il va être question de la profonde obéissance de Jésus dans ce passage, et de la Trinité, et de comment Jésus il s'inscrit dans la Trinité. On voit qu'il est avant tout un maître obéissant. Et c'est un paradoxe, un maître qui obéit. Et obéit à qui, en plus C'est ce que va chercher à démontrer tout le passage de la tentation. Il y a un vrai enjeu d'adoration dans ce passage, comme il y a un véritable enjeu d'adoration dans toute la création. Et d'ailleurs, c'est sur ça que Jésus va conclure en prenant autorité face au diable. Il lui dira « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Verset 10. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Esprit a cherché à éprouver le cœur de Jésus dans ce désert? Est-ce qu'il ne le connaissait pas assez? Ils sont quand même de toute éternité ensemble, ils ont créé les choses ensemble. Est-ce que Jésus avait besoin de faire ça à Dieu? Est-ce que l'Esprit avait besoin de faire ça à Jésus? C'est un peu un mystère, mais en tout cas, Jésus l'a accepté pleinement de se soumettre à cet épisode conduit par l'Esprit. Tout comme il montrera plus loin, qui se soumet entièrement à la volonté de son Père. Quand il se retrouve à Gethsémané, au pied de cette croix, on en a parlé aussi de ce moment-là, ce matin, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça nous parle vraiment de l'économie de la Trinité, le fonctionnement de Dieu. Jésus, en fait, il est tellement uni, fidèle, obéissant, cohérent avec l'Esprit et le Père qu'ils ne sont qu'un. Hein? Ils ont des facettes différentes, ils ont même une présence aux hommes qui est différente, mais ils ne sont qu'un. Hein? Il n'y a pas trois dieux dans la Trinité. Ce que Jésus n'a pas fait, c'est présenter un autre Dieu, qui aurait une autre pensée, un autre caractère que tout ce qui avait été révélé avant ça. Et ce n'était pas un sujet évident à ce moment-là de la révélation biblique, parce que l'Ancien Testament ne nous avait pas vraiment parlé d'un Dieu trois en un. Pour reprendre la jolie expression de David B. au culte de rentrée, qui arrive à comparer Dieu à de la lessive, c'était joli. Non, l'Ancien Testament, ça, il nous avait parlé du fait qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Hein. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est un. Et comme beaucoup de révélations dans la Bible, cet enseignement sur qui est Dieu, il est progressif. On arrive à le saisir dans l'Ancien Testament qu'à la lumière de ces passages du Nouveau, qui nous expliquent que de toute éternité, l'Esprit, le Fils et le Père travaillent ensemble. Un seul Dieu, un même plan, une seule pensée, un même caractère. Et ce passage de Matthieu 4, il nous renseigne sur comment Jésus relationne avec l'Esprit Saint. Et on voit que l'Esprit ne lui est pas inférieur. On ne peut pas grader si facilement la Trinité. Il y a des passages qui nous indiquent que l'Esprit obéit au Fils, notamment quand Jésus dit aux disciples « Tenez-vous prêts, je vous enverrai le Consolateur, il puisera dans ce qui est à moi pour vous le donner. » Ça laisse penser que l'Esprit obéit au Fils, ce qui est vrai. Mais dans le passage de Matthieu 4, c'est Jésus qui obéit pleinement à l'Esprit. Et c'est un mystère de la Trinité, ce Fils qui sert le Père, l'Esprit qui sert le Fils, l'Esprit qui obéit au Fils, le Fils qui obéit à l'Esprit et au Père. Enfin, tout ça, c'est une dynamique vraiment puissante, vraiment intime, qu'on ne peut pas arriver toujours à bien comprendre, mais qui est grandiose. Et l'Esprit, il n'est pas seulement la puissance de Dieu. Il n'est pas que miracle, il n'est pas que délivrance, il est avant tout lui, une personne à part entière de Dieu. Ça mérite un respect profond, avant tout pour qui il est, lui. Et c'est ce que nous montre Jésus dans ce passage. Nous, parfois, dans nos prières, on a tendance à demander plus d'esprit, plus de puissance, plus de guérison, et c'est bien d'y aspirer. Mais en fait, quand on fait ça, est-ce qu'on est en train de s'engager vis-à-vis de Dieu-Esprit? Est-ce qu'on est en train de lui demander une vraie relation grandissante, un vrai cœur à cœur? Ou est-ce que, en fait, on veut juste manger de la démonstration de puissance? Jésus, cette relation-là avec l'Esprit, ça l'a conduit dans un désert et dans un autre vrai face-à-face, celui avec Satan, le tentateur. Et il faut juste au passage souligner l'anxiété de celui qui cherche à faire tomber le roi. Si tu es le Fils de Dieu, par deux fois, et puis à la troisième fois, ce désir fort de Satan que Jésus s'incline là maintenant devant lui. On sent qu'il perd patience. En fait, Satan, dans toute l'histoire biblique, il se rappelle que sa défaite viendra par un fils, une descendance. Quand au jardin, il lui est prophétisé que le fils de la femme lui écrasera la tête, il commence à partir de ce moment-là à s'inquiéter de ce que pourrait lui faire une humanité selon le cœur de Dieu. Et dans toute l'histoire de la révélation, il cherche tout le temps à faire tomber le fils. Et ça, c'est le tableau de la femme dans l'Apocalypse, la femme qui est en train d'enfanter, de mettre au monde cet enfant de la promesse. Le dragon la pourchasse jusque dans le désert. Satan pourchasse tout le temps le peuple de Dieu jusque dans le désert. C'est passionnant, cette anxiété de Satan à voir se réaliser les promesses de Dieu à son égard. Il a toujours un temps de retard. Et ce qui s'est passé dans ce désert-là avec Jésus, c'est le début de la victoire de Jésus sur le serpent. C'était un combat très ancien que la terre attendait depuis des millénaires. Ce tentateur, l'adversaire du désert, c'est un imposteur. Il n'est pas là pour conduire, mais il est là pour faire chuter. L'Esprit, lui, il a conduit Jésus au désert pour faire grandir, pour fortifier, pour révéler le cœur et faire rentrer dans la vocation, dans ce ministère tellement puissant par la suite. Et les circonstances, c'est les mêmes, c'est celles du désert. Mais l'intention entre Satan et l'Esprit est différente. Et l'enjeu sera l'obéissance à qui Jésus choisit de rester fidèle. Par deux fois, il est question de la mort de Jésus hein, dans les tentations. Manger, alors qu'au terme de 40 jours de jeûne dans un désert, il était proche de la mort, et être sauvé d'une chute d'en haut du haut du temple. Drôle d'idée, mais... Satan, on voit qu'il incite tout le temps Jésus à trouver des combines hein, pour sortir de la situation difficile qui était imposée par l'Esprit. Il tord la parole de Dieu, il se sert d'un verset pour contraindre Jésus, comme il a fait avec Adam et Ève hein, au jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Il sème le doute, mais avec Jésus, là, ça ne prend pas. Et en troisièmement, il parle d'autorité sur les royaumes de la terre. Il est venu chercher Jésus, il savait ce que venait faire Jésus sur terre. Mais Jésus ne s'est pas laissé écarter de tout ce qu'il avait à faire parce qu'il savait qui il était et ce qu'il avait à faire et l'autorité qu'il avait reçue pour accomplir toute chose. Et en plus, il ne cherchait pas à échapper à sa propre mort. Hein, autant Satan, il nous tient parfois, nous, hein, avec cet argument et cette peur qu'on peut avoir de la mort. Mais pour Jésus, c'était bien clair. Il n'était pas venu pour sauver sa vie, il était venu pour la donner. Hein. Et s'il avait fallu mourir là, maintenant, dans ce désert, il l'aurait fait, simplement. Mais il attendait une chose, que ce soit l'Esprit qui lève son jeûne et qui lui dise d'aller ailleurs, qui le conduise ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. La tentation de Jésus, en tout cas, ça nous montre d'emblée que Jésus, il accepte l'épreuve de la mort avec une entière obéissance et que c'est jamais Satan qui la lui prend en sa vie. Hein, c'est le Père, le Fils et l'Esprit qui se sont mis d'accord ensemble de toute éternité pour que le don de vie de Jésus sauve ce monde. Et au désert, l'Esprit a pu pleinement attester de Jésus. Comme le Père a pu pleinement attester de Jésus lors de son baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ce qui fait qu'en fait, avant même de commencer son ministère sur terre, Jésus a été pleinement approuvé par Dieu, Esprit et Père. La Trinité n'a pas été ébranlée par l'humanité de Jésus. Il n'y a pas eu désunion. Parce que Jésus, homme, est resté en tout point conforme à ce que Dieu aime. Oui, Jésus il aura la puissance pour transformer des choses improbables en pain, et il nourrira même des foules. Oui, il gouvernera tous les royaumes de la terre. Oui, le temple ne sera pas un souci pour lui, mais il obtiendra tout ça des mains de Dieu et pas des mains de Satan. L'enjeu d'obéissance, d'adoration. Sur ce, les anges vinrent et se mirent à le servir. Rien de moins. Verset 11. Et à partir de ce moment-là, on voit au verset 17, Jésus peut rentrer dans son ministère. On voit que la sortie du désert, ça propulse Jésus dans son ministère terrestre. Il y a une vraie montée en puissance au cours des tentations. Et au terme de ça, il peut apparaître comme le maître charismatique et puissant. Proche des gens, il appelle, il rassemble les premières foules. Et ce ministère, c'est pas seulement de mourir sur la croix, ce qui est déjà énorme, mais il a eu 3 années qui ont montré que c'était un rabbi, un maître par excellence. Bon, je laisse là toute cette partie de côté pour la suite de l'étude de Matthieu, ça va pouvoir être beaucoup mieux approfondi. Mais juste un petit mot peut-être au passage sur le message de Jésus, dont il est question au verset 23. Il est écrit que Jésus proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux. Quel est l'évangile proclamé par Jésus ? Ce n'est pas qu'on est sauvé. La bonne nouvelle qu'on annonce, nous, c'est très souvent « tu es sauvé ». Quand on est plein de zèle, on arrive à dire « Jésus t'a sauvé ». Et c'est super, c'est vrai, mais en fait, si on annonce l'évangile comme ça, on oublie les 3/4 de la Bible. Et on ne proclame pas le même évangile que ce que Jésus proclamé avec ses disciples. La bonne nouvelle annoncée par Jésus, c'est celle du règne des cieux. Dieu règne. Il a créé toute chose. Il a entièrement soumis la puissance du mal. Il a racheté l'humanité, oui, mais pour la réintégrer dans son projet global qui est que la création entière lui rende gloire. Et c'est pas centré sur Dieu, finalement, cette bonne nouvelle. C'est ça, c'est centré sur Dieu. la bonne nouvelle. C'est pas centré sur notre salut, même si c'est tellement important pour nous. Ça nous rend possible Dieu. Ça nous rend possible le grand plan de Dieu. Et tout l'objet de l'enseignement de Jésus, ça sera de nous parler de ce grand plan. Ce qui nous fait passer au chapitre 5, du coup. Je pense qu'il y a une diapo sur juste le texte. En gros, ça concerne les 16 premiers versets des Béatitudes, avec cette super formule « heureux ». Jésus, il est celui qui promet le bonheur, qui offre une espérance. Il est super commercial. Il avait tout compris avant la société de consommation. Il dresse les contours du caractère de celui qui le suit, le témoin fidèle jusqu'au bout. C'est un thème vraiment cher dans la Bible. On voit au verset 13 qu'il est sel, lumière du monde. Il doit briller, verset 16. Pour que tous les hommes voient le bien que vous faites et qu'ils donnent gloire à Dieu. Encore l'enjeu d'adoration. En fait, Jésus, c'est ce grand roi qui a toujours désiré avoir un peuple qui témoigne. Même si ça doit nous jeter en prison. Même si on doit être persécuté. Même si on doit être dénigré publiquement. C'est un peu provocant dit comme ça. Et bien sûr que Jésus, il n'a pas envie qu'on souffre. Mais n'empêche que l'expérience qu'il a eue de la vie sur terre, c'est qu'il vaut mieux rester fidèle à Dieu que rester fidèle au monde. Si eux se taisent, les pierres crieront. Ça me donne une claque, je vous avoue. Je partage le malaise. Jésus, il n'est pas toujours un super copain qui cherche toujours à nous éviter les situations inconfortables. Il a été fort sur terre, on le voit dans ses tentations, il a été extrêmement fort. Et il veut nous apprendre à être des hommes et des femmes forts, une humanité renouvelée, qui sait affronter la vie avec lui. Et les béatitudes, ça nous parle de ça, du bonheur, même dans l'épreuve. Et c'est pas rien pour nous qui vivons dans une société qui prône le bonheur en permanence. Même si on fait des générations de frustrés, c'est pas grave. On continue à dire qu'il faut être heureux. Il y a des sociologues qui appellent ça la tyrannie du bonheur, parce que jamais on y arrive en fait. Et c'est ce que nous disent les béatitudes, c'est que l'homme ne détient pas en lui-même les clés du bonheur. C'est auprès de Dieu qu'on l'apprend. C'est le psaume 16, verset 1 qui nous dit « Tu me feras connaître les sentiers de la vie ». Plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Les béatitudes, c'est un chemin curieux quand même que Jésus nous indique pour marcher vers le bonheur. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont humbles, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui témoignent de la bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui répandent autour de la paix. Ceux qui sont opprimés pour la justice, ceux qui sont insultés, persécutés, ça fait rêver. C'est très vendeur, je pense qu'il est passé à côté de son job de commercial. Ce que dit Jésus, c'est que ce n'est pas forcément dans la facilité qu'on trouve le bonheur. Et honnêtement, malgré ces conseils personnalisés de Jésus quand même, je ne suis pas sûre qu'on ait toujours envie de marcher sur ce chemin-là du bonheur. On reste quand même malgré tout très accroché à l'idée du bonheur matérialiste de notre société. Ce n'est pas ce que Jésus nous indique. Il y a une contrepartie à ces bizarreries de Jésus et elle concerne tout le temps l'espérance à venir. Jésus est l'espérance. Il nous parle du futur et il le fait au futur dans les Béatitudes. Dieu les consolera, Dieu leur donnera, ils seront rassasiés, Dieu sera bon pour eux, ils verront Dieu. Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Le royaume des cieux leur appartient. Ah, là, il y a un présent. Le royaume des cieux nous appartient. Heureux serez-vous, oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car cette magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Jésus, d'entrée de jeu de son ministère, il commence déjà à parler d'éternité. De bonheur parfait à venir. Rien de moins que ça. Il nous présente l'éternité auprès de lui. Et là, ça va commencer à nous faire rêver. On ne peut pas s'étendre plus là ce matin sur cette espérance forte à venir, ce royaume, mais c'est une perspective glorieuse. Et il nous faut avoir en vue le projet de Dieu, sinon on passe à côté du chemin difficile des béatitudes. Ça sera sûrement revu dans la suite de Matthieu. Nous, on va finir le message avec le rapport de Jésus à la loi de l'Ancien Testament, son rapport à la justice. En fait, on va juste faire une introduction parce que ça pourrait être beaucoup mieux repris dimanche prochain dans les chapitres 6-7. Bon courage. D'entrée de jeu, Jésus n'a pas voulu nous mettre dans l'erreur d'interprétation par rapport à la loi de l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu l'abolir. Je suis venu l'accomplir. Hein. Et il va plus loin encore, il nous dit au verset 20, « Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi, donc qui étaient par là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est quand même une grosse mise en garde contre la tentation de mettre de côté l'Ancien Testament. Hein. Et ça a été l'erreur de Marcion. Je m'étais promis de ne pas parler des hérésies du 1er siècle, mais j'en parle un peu. Dans les tout premiers siècles de l'Église, il y a eu une hérésie qui a été conduite par Marcion, c'était un bonhomme, et qui a consisté à rejeter tous les textes de l'Ancien Testament en considérant que simplement l'expérience de Jésus suffisait à construire notre foi. C'était remettre vraiment de côté énormément de choses. Et combien de fois on n'en est pas loin, on flirte un peu avec cette idée-là, quand on dit que l'Ancien Testament ne nous concerne plus, ou que la loi est abolie, qu'on n'a même plus besoin de la lire, Lévitique. Bon, on peut quand même y aller un peu dedans. Est-ce qu'on continue vraiment à lire l'Ancien Testament avec le même amour que le Nouveau Testament? Parce qu'en fait, l'Ancien Testament, il nous révèle énormément de choses sur Dieu que ne reprend pas toujours le Nouveau Testament. Parce que pour Jésus, c'était clair que les deux sont à lire ensemble. Et si on lit que le Nouveau Testament, on ne peut pas avoir une idée juste de qui est Dieu, de quel est son plan pour le monde, de ce qu'il met en œuvre. Et on ne peut pas comprendre non plus qui est Jésus, ce grand maître, ce prophète, ce roi, cette justice de Dieu, l'enfant de la promesse. On ne peut pas comprendre tout ça si on ne lit que le Nouveau Testament. Donc en fait, ce que Jésus n'a pas fait d'entrée de jeu, c'est rejeter toute la révélation biblique précédente en disant « Moi, je suis Dieu et je suffis ». Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est profondément soumis à toute la révélation biblique. Pourtant, il s'est aussi permis de rebattre un peu les cartes parce qu'il savait qu'il avait en lui-même les clés de toutes les impossibilités révélées par l'Ancien Testament. Quand il arrive sur Terre, il se positionne très fort sur une des questions les plus explosives de l'Ancien Testament, la justice de Dieu. Et en fait, en Jésus, ça n'accomplit pas seulement quelques prophéties ou bien une généalogie bien soignée. Déjà, c'est bien que tout s'accomplisse comme ça en lui, mais il est aussi lui-même l'accomplissement parfait de la loi. Vous avez entendu que, mais moi, je vous dis, c'est un scandale pour l'époque, de se positionner avec autorité sur ce grand texte quasi sacré qui tient l'identité du peuple juif depuis des siècles. Vous voyez la menace que représente d'un coup Jésus. Et la loi, c'était un merveilleux pédagogue. Mais là, c'est Dieu lui-même qui vient expliquer ce qu'est la justice de Dieu. Et on voit qu'elle va aller plus loin que tout ce qui avait déjà été dit. Elle est plus implacable. Elle est plus jusqu'au boutiste. Jésus, il va vraiment beaucoup plus loin dans la justice que ce qu'en allait la loi. Il vient vraiment à l'intérieur du cœur. Et il peut le faire parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. C'est Jean qui nous le dit dans son prologue. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Et verset 14, celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. La grâce, elle n'est pas accommodante, elle est aussi pleine de vérité. Et il continue à y avoir une loi parce qu'il continue à y avoir une justice. Avec le ministère de Jésus, Dieu n'a pas renoncé à sa sainteté et à sa justice. Résumer l'œuvre de Jésus à « il n'y a plus de loi puisqu'il y a la grâce », ce n'est pas tout à fait ce qu'a cherché à dire Paul. Oui, Dieu continue à avoir des exigences élevées pour nos vies, parce qu'il est fondamentalement juste. Hein. Il est toujours aussi saint, il a toujours une si haute idée de la perfection pour ce monde. Hein. Son projet, il n'a pas changé. Et au moment où Jésus nous parle de cette justice-là, il n'a pas peur de nous mettre en échec, parce qu'il sait que c'est lui qui va venir l'accomplir pleinement. Hein. C'est lui qui va porter tout ça. Il est le sacrifice parfait, en même temps que l'obéissance parfaite. Donc, la différence fondamentale avec le régime de l'Ancien Testament, ce n'est pas que Dieu n'est plus juste ou qu'il n'est plus saint. Hein. La différence fondamentale, c'est que nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, hein, ça ne retombe plus sur nous, mais ça retombe sur ce Jésus qui a tout accompli à notre place. Et c'est pour ça qu'on peut obéir à la loi mieux que les spécialistes de la loi, parce qu'ils n'avaient pas ce Jésus-là. Hein. Il est obéissance parfaite en même temps que justice parfaite. Il nous impute ces deux choses-là. En conséquence, il est aussi un maître pour qui on peut se sacrifier. Hein, c'est ce que nous disent les injonctions du sermon. Hein. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le bien loin. Si ta main droite te fait tomber, coupe-la et balance-la aussi. Hein. C'est bien sûr pas à prendre au sens littéral. Hein. On ne va pas commencer à faire ce genre de choses, hein, très brouillon. Mais c'est quand même une grosse invitation à se positionner, hein, même quand ça nous fait mal, même quand ça nous coûte, parce qu'il est un maître digne de trouver des témoins fidèles jusqu'au bout. Hein. Par amour pour lui, on ne peut pas tout faire. Par amour pour lui, on peut par contre se mettre à le suivre, hein, dans l'appel qu'il lance. On peut se mettre à lui ressembler. De nouveau, on peut prétendre à être image de Dieu sur terre, parce qu'il nous a montré la voie. Pas par contrainte, hein, par amour pour tout ce qu'il nous a montré, par profond respect pour tout ce qu'il est. Voilà, donc en conclusion, hein, Jésus, en tout début d'évangile de Matthieu, il apparaît déjà comme ce maître pleinement Dieu, pleinement homme, qui se laisse conduire par l'Esprit, par le Père. La tentation de Jésus au désert, c'est un moment fort et intime, hein, de sa vie qui vient planter les bases d'un ministère surpuissant de Dieu homme sur terre. Est-ce que Dieu pouvait être tenté par le diable? La Bible nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le diable. Eh bien, Dieu homme, Jésus, l'a été dans ce désert. Hein. Il s'est mis extrêmement à notre portée en acceptant l'épreuve du désert. Pas pour venir excuser nos faiblesses, pas pour dire ben, « c'est normal qu'ils échouent, les pauvres, c'est vraiment trop dur d'être un homme hein, ». Il n'a pas fait ça. Il est venu nous montrer qu'il existe un chemin par excellence, hein, qui est rendu possible par tout ce que lui, il a accompli avant nous. Il est le type même de l'humanité selon le cœur de Dieu. Il a permis à chaque croyant de s'identifier, hein, ce Jésus en galère dans le désert qui transpire qui a su rester fidèle jusqu'au bout, parce qu'il avait en vue des choses plus grandes. Hein. Le ministère de Jésus, ce n'est pas seulement un immense sacrifice, une résurrection et un couronnement en gloire, ce qui est déjà, on en convient pas mal, c'est déjà énorme, hein, mais c'est aussi profondément un exemple de vie d'un homme qui a souffert les mêmes difficultés que nous et qui s'est montré en tout point conforme à ce que Dieu aime. Il apparaît aussi en gloire, hein, dans ces passages. Il est le maître qui dispose de sa vie, de sa mort, qui a autorité sur les puissances du mal et qui est plein de charisme, qui est puissant, proche des gens, il rassemble les foules. Hein. Son message, il est fort, il résonne du haut d'une montagne et jusque dans les siècles. Hein. Jésus détient les clés du bonheur, de la justice, il est ce rabbi par excellence. Il endosse tout l'héritage de la loi pour l'amener à son plein accomplissement hein, et rétablir ce que le monde devrait être. Il est maître d'une humanité renouvelée. Paul nous parlera du second Adam. Hein. Toutes choses sont devenues nouvelles. On se relit le passage de Philippiens 2 que Farid avait relu la semaine précédente, mais qui est tellement juste en fait. Hein. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans le ciel, sur la terre et jusque sous la terre. Que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Gloire à ce Jésus. Hein. Tout a été créé par lui, Jean 1. Hein. En lui résidait la vie. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Seigneur, merci pour tout ce que tu as été. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as été et dont on n'a même pas conscience, Seigneur. Je te prie vraiment de nous faire goûter à tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, Seigneur, hein, qui est acté dans le ciel, sur la terre et jusque sous la terre. Merci parce que tu nous as ouvert ce chemin, Seigneur Dieu. Hein. Merci parce qu'on peut humblement le suivre, parce qu'on sait qui suivre, Seigneur Dieu. Merci pour cet exemple que tu as été, Seigneur. Amen, Seigneur Dieu. Shalom.